Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Nous sommes le 26 décembre et vous en avez gros. Non pas sur la patate, mais sur l'estomac. Vous avez le sentiment d'avoir vécu toutes les épreuves des 10 dernières années de Top Chef en 3 jours. Et à force d'avoir abusé, vous pensez que le foie gras, eh bien c'est le vôtre. En un mot comme en mille, vous avez le sentiment que vous allez exploser. Et pour toutes ces raisons, vous êtes prêt à débrancher votre cerveau et à vous vautrer devant votre télé. Alors, rappelez-vous, lundi, je vous ai sauvé de La Belle de Noël, le téléfilm diffusé en même temps que nous sur TF1. Mais ça recommence. À peine Noël passé, M6 dégaine. La mélancolie de Noël, ça s'appelle. Et la mélancolie de Noël, c'est quoi? Voilà le pitch. Samantha dirige une école de musique à Brooklyn, un quartier de New York, dans laquelle Lizzie exerce avec passion comme professeur de piano. Un jour, le cabinet immobilier de Brad Evans, un promoteur veuf bien sûr, décide d'acheter l'immeuble qui héberge l'école pour en faire des bureaux. Le problème commence pour Lizzie et Samantha. Alors non, ne sombrez pas, résistez, respectez-vous. À la place, je vous propose de passer une pop-heure en compagnie d'une des chanteuses françaises les plus explosives et une dessinatrice qui se pose les questions les plus bizarres du monde, du genre combien de poils un chat doit-il avoir? Ou encore, l'orgasme est-il un bon somnifère? Beaucoup de questions et éventuellement quelques éléments de réponse tout de suite dans ce pop-up avec Isia et Marion Montaigne.
France Inter. Pop-up. Antoine de Caunes.
Bonjour Isia Higelin.
Bonjour Antoine de Caunes.
Bienvenue dans notre studio Isia, vous recevoir pour la journée du bœuf. Vous qui avez un moment caressé l'espoir de devenir boucher. On va dire que c'est un hasard ou une coïncidence?
Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Jamais. À mes côtés, celle qui le caresse encore parfois, l'espoir, même si elle a cessé d'en consommer, du bœuf, Charline.
Oui, Roux. Pas de l'espoir. Hein.
Non.
Bonjour Antoine. Bonjour Isia. Bonjour Charline.
Ici, il existe une question préliminaire, une question encore plus violente qu'un remix de Franck Michael. Et cette question, c'est... Isia, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses isiesques, isititives, isianisées, et même isi tout court, comme dirait Booba. Et parmi mes préférées, il y a celle qui arrivait chaque soir sur le plateau de Canal+, pour faire sa météo sur votre musique. Doria Tillier!
Parfois, j'ai l'impression que pop, c'est un mot qu'on met devant culture pour faire pop culture, pour qu'on croit que c'est une culture plus cool, mais c'est juste de la culture. En fait, la culture, on croit que c'est chiant, mais c'est pas chiant, c'est pop. Je crois que presque toutes les cultures peuvent être pop, en fait.
Bien, merci Doria Tillier. Et pour vous, Isia Higelin, qu'est-ce que c'est la pop culture?
Elle me fait rire avec sa petite réponse intelligente, alors qu'elle a quand même une citation de Britney Spears encadrée dans un au-dessus de son lit.
Vraiment,
donc,
et qui dit quoi cette citation de Britney Spears?
No, if Britney made it through 2009, then you can make it through this day.
Oh.
C'est le leitmotiv de Doria Tillier. Ouais, et donc moi, ma réponse à qu'est-ce que c'est la pop culture, je dirais que c'est Britney Spears.
Ouais. Bien, mais Britney Spears encadrée au-dessus du lit de Doria Tillier.
Oui, alors ça c'est encore, oui. c'est carrément, c'est deep dans la pop culture.
C'est haut et c'est bas.
Alors, on a tout là, on a Doria Tillier, Britney Spears, un lit, un cadre.
Ça, et l'année 2009.
Et l'année 2009, ça vous convient, Charline?
Parfait.
Très bien. Eh ben alors c'est parti. La pop, la culture et la pop culture. On va en parler dans la suite de Pop 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 juste après un de vos morceaux, Isia. Heal Tomorrow, c'est un morceau avec les Naive New Beaters. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. I had a dream. It was melting like a sandcastle in the wind. You couldn't focus. Running way too hard just to keep the donuts. We shut. Such a hot cast, taking off your mask. You
it all. No, the world's smart. For sure I can fall. I have a
Heal Tomorrow, Naïve New Beaters, featuring Izia. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une invitée qui a déclaré au monde diplomatique, enfin je crois, hein, vouloir prendre une douche avec Brad Pitt. Qui est-elle? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Izia, c'est votre portrait bien sûr, mais...
À base de pop.
Et c'est signé Charline Raro.
Aujourd'hui, non pas une invitée, mais un ouragan. Oh, pas menaçant, hein, sacrément décoiffant pour quiconque aimant à être bien peigné. Ce qui ne vous aura pas échappé, chère Izia, n'est pas notre cas. J'ai personnellement le cheveu plat et ce qui se passe sur la tête d'Antoine, par pitié, reste sur la tête d'Antoine. Merci. Trêve de considération capillaire, on va pas les couper en quatre. Cette fille-là emporte tout sur son passage avec une force et une rapidité qui frôlent l'insolence. Celle, par exemple, d'une jeune fille qui assure la première partie d'un Iggy Pop à 16 ans. Car cet ouragan-là, à même pas 30 ans, compte déjà 13 ans de carrière, 4 albums, 9 films et une série. Oui, comme un ouragan, elle emporte tout, y compris l'adhésion du public et de ses pairs sous forme de statuettes dorées, 3 victoires de la musique, dont certaines accueillies par de multiples putes. Et un César du meilleur espoir féminin pour mauvaise fille. Et comme elle ne fait rien comme les autres en le recevant, elle n'a même pas pleuré, alors que je crois que c'est contractuel hein, dans cette catégorie au César.
Confirme.
Bref, une invitée dont on se dit qu'elle sait tout faire et qu'elle ne s'en prive pas. En fait, je rectifie, cette fille-là, c'est pas un ouragan, c'est un kamehameha.
Un kamehameha,
ouais. Une sorte de boule d'énergie.
Un kamehameha. Oui, c'est cette dragon machin. Ah, c'est pas ma génération, ça.
Non, c'est pas la mienne non plus.
Eh ben, c'est la mienne.
Un kamehameha. Bon. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir où en est ce projet de douche avec Brad Pitt.
Oh, bah, malheureusement, ça n'a pas vraiment avancé.
Non.
À mon plus grand désespoir.
Reculé, donc.
Oui, non, non, c'est au même stade. Ouais. On est pareil.
Vous n'avez pas perdu tout espoir.
Non, ben non, en plus, c'est maintenant, voilà, il est séparé, il se refait un peu une petite actu. Je me dis qu'on peut peut-être se croiser dans un couloir d'hôtel.
Petite actu,
ouais. Oui, une petite actu, enfin, oui, c'est ça. Deux petits films, tranquille. Voilà. Et puis bon, j'ai vu qu'il était toujours en pleine forme. Ouais. Alors, ma proposition.
Brad, if you listen to us, Izia would love to take a shower.
Yeah, but just a bath. I don't know, but maybe we can just hang around.
Just hang around.
You know, I will visit you Paris.
Okay, or maybe just wash your hands. Whatever.
Together.
Not necessarily a shower. Bon, très bien. Alors, sera-t-il question de douche de Brad Pitt ou de douche avec Brad Pitt dans la séquence qui suit? Réponse avec votre popliste, Izia. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Demande à la poussière de John Fante, publié en 1939. Alors Charline, je suis, comme vous, insensible à la beauté de la formule, mais concrètement, et là c'est à la ménagère que je m'adresse, que se passe-t-il quand on demande à la poussière?
Shame. J'ai envie de vous donner une clochette pour vous promener à travers ce studio. Et je vous répondrai donc que je ferai pas ça tous les jours. Allusion au Please qui n'a rien à voir avec le bouquin de Fante qui raconte l'histoire de Bandini, écrivain tourmenté et fauché, et sa tumultueuse relation avec Camilla.
Izia, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît? Elle tousse, elle s'éclaircit la voix, elle saisit le papier.
Elle m'a passé le bras autour du cou. Elle m'a tiré la tête et m'a enfoncé ses dents dans la lèvre inférieure. Je me suis débattue pour me dégager parce que ça faisait mal.
Oui.
Elle est restée à me regarder. Regagner l'hôtel, tout sourire, un bras passé par-dessus le dossier du siège. J'ai sorti mon mouchoir pour m'essuyer les lèvres. Le mouchoir avait du sang dessus.
Oui.
J'ai suivi la grisaille du couloir jusqu'à ma chambre. À peine j'ai fermé la porte que tout le désir qui m'avait fait défaut juste un moment auparavant s'est emparé de moi. Il me cognait le crâne et m'élançait dans les doigts.
Oui.
Je me suis jetée sur le lit. J'ai déchiré l'oreiller avec mes mains.
J'ai un peu l'impression.
Comment faites-vous pour faire d'un truc absolument magnifique un truc un peu sale, Antoine
Mais
de
Cônes? Mais ça n'a rien de sale, c'est sensuel.
J'étais partie sur quelque chose d'assez sérieux.
Ouais.
Et avec ces petits bondissements là, je me suis dit bon bah on va l'interpréter.
Mais non, c'est sensuel. Ah. Je visualisais votre rencontre avec Brad Pitt.
Oui, c'est c'est ça.
À travers
en fait.
Cet extrait de donc Demande à la poussière de John Fante. Que demandez-vous vous à la poussière, Isia?
Oh, j'en sais rien, que la poussière.
Non, pourquoi ce livre vous a tellement séduit?
Oh, parce que je l'ai lu, je pense, quand j'avais 16 ans la première fois, sur les conseils d'un ami, et ça m'a vraiment bouleversée. J'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé la littérature qui me plaît, en fait. J'avais du mal un peu à trouver des livres qui me parlaient vraiment, et je pense que ça a été un vrai choc par justement la violence des mots, côté très cru. Ça m'a vraiment retournée. Après, j'ai commencé à lire des choses comme du Shelby et tout ça, et ça a vraiment été c'est des lectures qui ont été hyper importantes pour moi.
C'est une très bonne entrée en matière en littérature, John Fante, quand on a du mal, quand on a, je sais pas, 15 ans, 16 ans, et qu'on a, on a du mal à lire. Fante, Raymond Carver, si je peux me permettre de donner ces conseils. Allez-y, jeunes auditeurs qui nous écoutez et qui vous aussi avez du mal à lire.
Lisez Mon chien stupide, c'est le plus court.
Voilà.
C'est une très bonne.
C'est pas la taille qui compte, vous savez. Bien, Isia, pour le film, vous avez
choisi. J'ai entendu parler de cette théorie.
Le Seigneur des Anneaux, une trilogie réalisée par Peter Jackson entre 2001 et 2003. Charline, alors je sais bien qu'il s'agit de cinéma, mais c'est encore la ménagère que je m'adresse. Quel type d'anneau me conseillez-vous avec des rideaux en coton surpiqué?
Parce que vous pensez vraiment que Tolkien, dont la trilogie a été prise au cinéma, se préoccupait de ses voilages. Vraiment. Ah.
Oui,
vous pensez ça?
Oui, bien sûr,
évidemment.
Je le pense.
Non, il préférait les aventures de hobbits, de magiciens, d'elfes, de rois et de nains, et vous mériteriez de muter en Gollum pour votre pénitence.
Extrait.
Une amitié avec Saruman, ça ne se refuse pas comme cela. Embrassez le pouvoir de l'anneau, ou embrassez votre propre destruction. Il n'y a qu'un seul seigneur de l'anneau. Lui seul a le pouvoir de le plier à sa volonté. Et il ne partage pas ce pouvoir.
Embrasser le pouvoir de l'anneau.
Non.
Vous aimez bien les personnages à oreilles pointues, Isia?
Oui.
Oui.
Ouais.
Dans Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, d'une manière générale dans
bon,
la vie?
D'une manière générale, dans la vie, j'ai un truc pour les oreilles pointues.
Alors, Le Seigneur des Anneaux, c'est toute la trilogie, vous êtes séduite par tout l'univers.
Ouais, j'étais depuis que je suis toute petite. Ouais, mon père, il me lisait Bilbo pour m'endormir le soir. C'est vraiment un ouvrage qui a été hyper important pour moi. Ensuite, la trilogie que j'ai lue à adolescente. Et donc, quand les films sont arrivés, c'était vraiment le cataclysme. J'étais trop contente. J'allais voir tous les films à leur sortie. C'est vraiment un truc. Si ça tombe à la télé, que je le vois, je vais scotcher dessus immédiatement. Je connais tous par cœur. Viggo Mortensen, tout ça, l'amour de ma vie avant de Brad Pitt. Donc pour la douche, ça marche aussi pour Viggo.
Aussi se doucher avec Aragorn.
Voilà,
tout à fait.
Exactement. C'est vraiment une passion.
Il faut une douche de piscine bientôt accueillir tout ce monde-là.
Et plus avec Aragorn qu'avec Legolas, l'elfe.
Oui, brun ténébreux plutôt que le blond.
Vous pouvez redire la phrase, là, s'il vous plaît?
Plus avec Aragorn qu'avec Legolas. Aragorn, c'est Viggo Mortensen. Legolas, c'est, comment s'appelle-t-il? J'ai oublié, le blond.
Orlando Bloom. Voilà, on s'en souvient pas.
Orlando
la preuve.
Mais on vient de me le souffler.
C'est Legolas, c'est tout ce que je retiens. Alors, Isia, pour la série, vous avez choisi Breaking Bad, créé par Vince Gilligan, diffusé entre 2008 et 2013, disponible sur Netflix en France. Charline, nous avons souvent parlé de En cassant mauvais, le titre français dans Pop Pop Pop. Qu'en dire de plus qui étonne nos fidèles auditeurs? Je vous laisse le champ libre.
Qui étonne, je ne sais pas, mais que les nostalgiques peuvent retrouver Jesse Pinkman dans El Camino, Breaking Bad Movie, dispo sur Netflix pour savoir ce qui est arrivé à Walter White, après ce que vous savez. Non, vous savez pas, vous n'avez pas vu. À Walter White ou à son célèbre et sinistre alias.
C'est dégueulasse.
Who the hell are you?
You know.
You all know exactly who I am. Say my name.
You what? I don't have a damn clue who the hell you are.
Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring.
Bullshit. Cartel got Fring.
You sure? Now, say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Isia Higelinger,
Non mais arrêtez, rien que d'avoir mis un extrait. Le générique, ça me fait une espèce de FOMO, là. J'ai juste envie d'avoir rien vu des 6 saisons et d'être...
De FOMO.
C'est ça, de Fear of Missing Out.
Fear of Missing Out.
Ouais, mais FOMO, j'ai envie, je sais pas.
J'ai appris un mot. Qu'est-ce que vous pensez d'abord du titre français, En cassant mauvais?
C'est très bien.
Ça vous plaît?
Oui.
Et ensuite, bah, pourquoi ça vous provoque ce faux mot, cette...
Mais non, mais parce que c'était vraiment extraordinaire. Les acteurs, les personnages, le scénario, sauf un peu la fin. Alors moi d'ailleurs, j'ai été assez sceptique sur la fin, ça m'a vraiment troublée. Du coup, j'ai trouvé une théorie d'une journaliste du New York Times qui dit, bah en même temps je vais pas spoiler, mais qui disait qu'à un moment où la scène où il est caché dans la voiture et il neige et les flics lui passent devant, je sais pas si vous vous rappelez, et ne le voit pas. En fait, elle estime qu'à partir de ce moment-là, il est vraiment déjà mort et que tout est un rêve en fait, et que toute la fin est un espèce de fantasme. Et j'ai beaucoup aimé cette théorie-là qui me confortait dans l'idée que c'était pas si bien que le reste de la saison.
Vous avez regardé le film ?
Non, j'ai peur. J'ai peur.
Vous avez une théorie sur la fin des Sopranos ?
Non.
Bah parce que je me pose toujours la question.
Bon.
Bah non.
C'est tellement dur de parler de quelque chose sans pouvoir aller au bout des choses.
C'est les paroles d'experts.
On y reviendra. Isia Higelin, terminons cette pop liste avec votre chanson culte. Cette chanson, c'est celle-ci. Rock'n'Roll Suicide de David Bowie, paru en 72 sur l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Vous êtes donc bowiste, Isia?
Oui, extrêmement bowiste.
Extrêmement bowiste.
Ouais.
Iriez-vous jusqu'à dire que c'est Bowie qui vous a donné envie de chanter?
Non, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un personnage qui m'a vraiment bouleversé. Mais comme tous les mecs un peu de ces années-là, quand même, putain, c'était autre chose, quoi. C'est...
Approfondissez.
Non, mais j'ai, en fait, j'ai vu là il y a pas longtemps pour la.
Je suis de cette époque-là.
Non, mais j'aurais pu citer un morceau des Queen aussi parce que c'est... Rock'n'Roll Suicide, il a cette espèce de voilà d'énormes montées comme ça, hyper empirique et tout, qui est vraiment. Enfin moi, c'est des morceaux qui me bouleversent, qui me transpercent. Je suis vraiment cliente absolue de ce genre de mélodie là. J'ai vu le film sur Queen, la Bohemian Rhapsody, pour la première fois il y a quelques jours et ça m'a vraiment bouleversée, quoi. Tu te dis mais quel type, quoi, quel mec, quoi. Vraiment, je pleurais dans le lit avec la scène finale à Wembley et tout. Enfin, j'étais vraiment bouleversée et franchement j'ai j'ai envie de casser des bouches, quoi. J'ai envie d'aller sur scène et j'ai envie d'être comme ça et d'en avoir rien à foutre, parce que souvent parfois tu peux un peu t'excuser d'être toi et tout. Enfin, genre, puis là je me dis mais fuck it, quoi, putain. C'est ça, il faut vraiment vivre sa musique comme Rock'n'Roll Suicide, comme ces espèces d'élan hyper hyper deep. Bah moi j'ai vraiment envie de ça là. J'ai envie d'être sur scène et de
vous voulez dire qu'on est devenu frileux aujourd'hui
un peu, ouais, je trouve, ouais. Un petit peu, ouais.
On a peur de tout, on a peur de cette dimension héroïque, on a peur de cette folie, de cette démesure.
Moi je pense.
Mais c'est vrai que vous ennuyez quand vous allez voir des gens sur scène?
Non, bah ça dépend qui. Ça dépend qui. Non ça dépend qui. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à... J'aime ces morceaux, forts. Quoi.
Bien, alors votre pop list, Isia, je résume. Demande à la poussière, Le Seigneur des Anneaux, Breaking Bad et David Bowie. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça. Oh no, love,
you're not alone. Who the hell are you?
You all know exactly who I am.
Une amitié avec Saruman, ça ne se refuse pas comme cela. You got to...
Say my name.
J'ai sorti mon mouchoir pour m'essuyer les lèvres. Le mouchoir avait du sang dessus.
Oui.
J'ai suivi la grisaille du couloir jusqu'à ma chambre.
Il n'y a qu'un seul seigneur de l'anneau.
You're goddamn right.
Voilà un petit résumé de ce qui trotte dans votre tête, Isia, aujourd'hui.
C'est un peu dark.
Ouais.
C'est moins dark dans ma tête.
Bon, très bien, bon, on va éclaircir tout ça dans l'émission. Avant de parler de Citadel, votre quatrième album, on en écoute un extrait avec ce morceau, Trop Vite.
Des émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite. passer du rire aux larmes si vite. Sur tes joues, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin. Claquer la porte avec fracas. On ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments passés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Tu vas abîmer ton cœur à trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage dans ta tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime que t'oublies de t'aimer toi-même. T'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey. Les sentiments glacés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite.
Pop pop pop. Antoine Decaune
et Charlie Nerot. Prénom, Instagram et concert sont les résultats qui tombent en premier quand on tape votre nom sur Google, Izzy Aigelin. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter Citadelle, cet album qui arrive 20 jours avant la sortie de Debout sur la montagne, le film de Sébastien Belbédé, dans lequel vous jouez et pendant que vous tournez, Petite Nature, le film de Samuel Taïs. Alors on dit quoi ? Couteau suisse de la pop culture, workaholic, popaholic.
Ouais.
N'avez pas peur de la charge mentale, par exemple?
Non, mais enfin, je sais pas. Quelqu'un m'a dit un jour, vaut mieux toujours faire que pas faire, et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Mmh. Et quand on a commencé à mettre en place le tournage de Samuel, là, qui était pile pendant vraiment le début de ma tournée, où j'avais vraiment mais des concerts, des répètes, des trucs tout le temps, et on a mis des jours de tournage pendant tous mes jours de repos. Et quand j'ai vu le planning, j'ai fait putain, mais je vais jamais y arriver. Au début, je me suis dit, mais c'est complètement inutile, c'est complètement fou de faire ça. Puis il y a cette petite voix qui est venue dans ma tête me dire, faut toujours mieux faire que pas faire. Et, mmh. Et c'est vrai que je pense que si j'avais refusé le rôle, tous les jours, je serais allée me reposer chez moi, j'aurais dit, putain, j'aurais pu être en train de tourner. Et rien que de me dire ça, ça m'a vraiment poussée à le faire.
Et puis c'est des plaisirs très différents et complémentaires aussi.
Ouais, c'est des énergies totalement différente. Mmh. C'est vraiment deux. Enfin, parfois on met ces deux arts l'un à côté de l'autre, mais pour moi, enfin, vous le savez très bien, c'est vraiment deux disciplines complètement opposées, quoi, dans l'énergie, dans la concentration, dans l'implication personnelle aussi.
La question rituelle qui vous est posée est, paraît-il, mais d'où vient toute cette énergie? Ouais. Alors, Isia, d'où vient toute cette énergie?
C'est vraiment la question qui me fait hérisser les poils. Genre, vraiment, ça me met mal.
C'est un faux mot.
Mais d'où vient toute cette énergie? Ouais. Parfois, j'avais de l'héroïne. Alors, j'en prends, mais un max. Et vraiment, ça me fait un bien.
C'était ça l'album de la maturité. Hein.
Une chanteuse comédienne biberonnée à Fred Aster et Ginger Rogers, qu'est-ce qu'on attend pour vous proposer une comédie musicale? Et si c'est le cas, est-ce que vous voulez plutôt un truc genre La La Land ou bien du demi? Plus classique.
Plus du La La Land. Moi, je suis très quand même cinéma américain. Mais j'adorerais, c'est mon rêve absolu.
C'est le moment.
Je pense que je vais devoir la faire.
C'est le moment idéal pour le faire savoir. Mais non, voilà, on a Isia Higelin, qui est une chanteuse incroyable, une actrice incroyable, qui sait tout faire. Vous avez fait des claquettes aussi.
Ouais.
D'accord?
Ouais, ouais.
Donc, qu'est-ce que vous attendez pour lui faire faire une comédie musicale, bon sang de bonsoir?
À qui parlez-vous?
À ceux qui nous écoutent.
C'est très inquiétant.
Je vous explique, des gens nous écoutent.
Ah!
Oui, nous sommes à la radio, Charline.
Très bien.
Non, on n'est pas chez nous, là.
Bah, parlez à Damien Chazelle, il paraît qu'il est en France en ce moment en train de tourner.
Damien Chazelle, if you're listening to us, please take his yes.
Yes. And maybe we can take a shower too.
Yes, on va avec Brad Pitt.
Oui, bien sûr. Citadel, Viggo Mortensen.
Citadel, c'est le titre de cet album. Donc, une citadelle, c'est une place forte qui permet aussi de voir de haut. Est-ce que c'est ainsi que vous l'avez conçu? Cet album.
Oui, enfin, je l'ai. Cet album pour moi, c'est vraiment la. Enfin, le nom de l'album Citadelle, il m'est venu à la fin. En fait, à la base, c'était le nom du morceau Calvi, et j'ai voulu appeler l'album Citadelle parce que inconsciemment, en fait, même si je trouve que c'est un très joli mot et qui représente des choses, des images très fortes, j'ai vraiment l'impression que c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et je me sens solide, je me sens ancrée. Voilà, c'est un lieu qui représente énormément de choses pour moi, mais au-delà de ça, c'est ouais, j'ai l'impression d'avoir quand même traversé pas mal de trucs, même si je suis encore très jeune, j'ai 29 ans, mais j'ai commencé, j'avais 16 ans, et j'ai l'impression d'avoir vu passer pas mal de choses, mine de rien, un peu comme une citadelle.
Et la citadelle, c'est donc celle de Calvi, comme vous venez de le dire à l'instant, c'est marrant parce que moi j'entends Calvi.
Oui.
C'est aussi ce que vous venez de dire à l'instant.
Mais c'est aussi ce que je dis dans le morceau. Je dis quelle vie, ouais.
Citadelle que, enfin, Calvi que votre père a longtemps fréquenté, hein, ouais. Un endroit où, qu'il adorait, où vous êtes souvent allé. Et c'est un album qui a vu le jour alors que vous attendiez votre petit garçon et que votre père, lui, prenait congé. Se précipiter de roman familial, est-ce que ça en fait un disque unique à vos yeux et comment est-ce que ça se traduit quand vous l'écoutez?
Oui, c'est un disque complètement unique. Enfin. Parce que ce que j'ai vécu, c'est la perte d'un parent, c'est quelque chose qui est complètement inévitable, mais c'est une étape dans une vie qui est...
Et que ça corresponde à l'arrivée d'un
enfant.
Oui, oui,
et qu'après ça correspond... Alors après, je me suis rendu compte que c'est pas si anodin que ça, enfin ça arrive beaucoup, enfin que c'est plutôt anodin, enfin je veux dire... J'ai rencontré des gens qui m'ont dit que voilà, ils avaient eu un enfant alors que un de leurs parents partait et tout ça, et c'est vraiment le cycle de la vie, et c'est vraiment la mort fait partie de la vie, la mort est le berceau de la vie, comme chantait mon père.
Mais vous avez fait ce disque dans le feu de l'action. Aujourd'hui, quand vous le réécoutez avec un peu de recul, est-ce que ça lui donne une couleur particulière?
Mais bien entendu, enfin je veux dire, c'est la base de, enfin je veux dire, je parle de ça, je parle de la vie. Bon, déjà, je réécoute pas vraiment mes disques, parce que une fois qu'il est fini, c'est fini, et j'ai toujours du mal à le réécouter. Mais bon, pour moi, cet album, c'est mon album le plus personnel, c'est l'album dans lequel je me livre vraiment, comme jamais je me suis livrée, et c'est un album hyper important pour moi. Vraiment, au-delà du fait que c'est un disque, c'est toujours important pour soi, celui-là, je suis hyper fière de l'avoir fait, d'avoir mis les chansons qu'il y a dedans, d'avoir dissimulé des petits talismans dedans, des petits hommages, enfin des petits messages plus que des hommages à mon père par-ci par-là. C'est un objet que, ouais, quand mon fils l'écoutera, je serai contente qu'il puisse écouter ça aussi.
C'était la question alors, que je voulais vous poser.
Justement, entre autres très belles chansons sur Citadelle, on peut entendre ceci. Tu saches qui clôt l'album adressé à votre fils. Est-ce qu'on peut voir en Citadelle aussi un album sur la transmission à plusieurs étages?
Ouais, oui, complètement. Après, le message dans Que tu saches, j'en parle comme si j'en parlais à mon fils, mais c'est un message que j'adresse à tout le monde et à moi-même aussi, avant tout, c'est vraiment que quoi qu'il arrive dans la vie, tout passe, enfin tout passe pas, mais tout se transforme, tout nous construit, tout nous rend plus forts, différents. Et moi, c'est typiquement voilà ce qui a pu m'arriver ces dernières années où j'ai l'impression de sortir de là, d'avoir fait putain, waouh, c'est fou quand même. C'est voilà ce que nous réserve la vie parfois, et c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, enfin un conseil, quelque chose qu'on me dise plus. T'inquiète pas, tout passe à un moment.
Il y a deux genres de fils et filles d'eux, hein. Enfin d'ailleurs de genres de fils et filles tout court. Ceux qui préfèrent qu'on les lâche avec ça, et puis ceux qui, au contraire, assument et revendiquent. Qu'est-ce que votre père à vous vous a transmis, Isia?
Je réponds souvent ça, mais c'est la vérité, c'est la liberté. Mon père m'a vraiment transmis la liberté. Je l'ai toujours vu évoluer en étant toujours fidèle à lui-même pour les bons moments et les mauvais aussi, et de toujours s'écouter, de toujours se faire confiance, de savoir dire non, de savoir dire oui, d'embrasser les situations à bras le corps, d'être de toujours profiter des moments que nous offre la vie. Et cet album, il parle de ça aussi, de vivre intensément les choses, de vivre pleinement la vie. Et ça, c'est quelque chose que mon père m'a appris aussi, de jamais laisser passer un beau moment.
Sur cet album, on retrouve celui que vous désignez comme votre parrain dans ce métier, en l'occurrence Dominique A. Pourquoi avoir fait appel à lui précisément pour cet album-là ?
Alors déjà, j'ai dit ça, oh mon Dieu, malheur, dans une interview, et ça commence à être repris. Je le considère pas comme mon parrain, c'est juste que non, mais
c'est voilà, un dé. C'est,
ouais, non, mais j'ai pas mon parrain, c'est juste. Ouais. En fait, j'avais dit, c'est comme mon parrain et ma marraine, la bonne fée. Enfin, quand j'ai que d'avoir mis Jeanne Adède et Dominique sur ce disque, pour moi, c'est vraiment comme j'ai pu insuffler plein de petits gris-gris talismaniques dans ce disque. Bah Jeanne et Dominique, c'est aussi ça. C'est des gens que je respecte tellement fort que leur présence sur le disque, pour moi, c'était voilà comme un signe de bon augure.
Et avec Jeanne Adède, vous réussissez un autre tour de force.
Chevaucher, accru et ride et toujours. Oh, oh, oh.
Soit la faire chanter en français. Est-ce qu'elle a été difficile à convaincre?
Non, pas du tout. Mais Jeanne, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Et voilà, c'était vraiment important pour moi de collaborer avec elle. Et au contraire, je crois qu'elle a très envie de se mettre au français, elle aussi. Donc, je lui souhaite tout le meilleur.
C'est un quatrième album qui s'éloigne des influences rock des deux premiers, qui prend plus un virage électropop. C'est une page tournée ou une évolution logique pour vous?
Non, c'est une évolution logique. Après, je fais vraiment la musique que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'écouter, que je ressens. Après, je reviendrai peut-être à des albums plus organiques plus tard. Ça, c'est vraiment pas. Je sais même pas ce que faudrait. Peut-être que je chanterai en turc. Peut-être que je ferai. Peut-être que je ferai un album en langue des signes.
En kurde, alors,
en kurde, ouais, voilà.
Ou sous la douche.
Ou sous la douche. Que des duos avec Brad Pitt, je sais pas.
justement. Attendez, je vais revenir là-dessus puisque nous parlions de la fameuse douche avec Brad Pitt en début d'émission. Mais Brad avait une question pour vous, écoutez.
Bonjour, Isa Higelin, c'est Brad Pitt. Dites-moi, ça vous fait quoi de savoir que Brad Pitt n'est pas insensible à votre charme?
Regarde. Bon, voilà, alors, ça me fait glousser.
Bah, ok, alors en fait c'est la voix française de Brad Pitt, hein, mais ça vous fait quoi de savoir que le Brad Pitt VF n'est pas insensible à votre charme?
Bah voilà, on peut s'appeler.
Thibaut de Montalembert.
On peut s'appeler en fait, et se parler au téléphone pendant longtemps.
Thibaut, parce que vous nous écoutez, voilà, appelez s'il vous plaît Isia, puis réglez ça au téléphone avec ou sans douche. Isia, vous rejoignez la scène mythique de Pop Pop Pop, vous allez nous interpréter Idole, cet extrait de votre quatrième album Citadelle. Et dès que vous êtes prête, vous me faites un petit signe et je vous envoie le pop du départ.
Dans mes yeux, vois-tu dans mes yeux? Combien je t'en veux? comme je tremble. La colère traverse ma peau, coule dans mon dos comme un fleuve.
Bien sûr, au clavier, et c'était en live sur la scène de Pop Pop Pop.
France Inter, le maxi best Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Blog, Instagram, BD sont les premiers résultats qui tombent sur Google quand on tape votre nom, Marion Montaigne. Pas trop déçu ?
Non, c'est normal, oui, non. Je préfère ça qu'une photo à poil, quoi.
Oui, mais justement, pas de nu, ni franc-maçon. Ouais. Vous n'avez pas l'impression d'être passé un peu à côté de votre e-réputation ?
Non, les auteurs de BD, s'ils pouvaient se planquer toute leur vie, je pense que... Non, non, on n'est pas très ouf.
Alors, Marion Montaigne, j'ai dans les mains le tome 5 de Tu mourras moins bête, une BD qui donne les réponses essentielles à nos questions existentielles. Quelle est votre question préférée à vous ?
Ah, parmi tout ce que j'ai
oui, soit,
fait...
ou la question que vous vous posez encore, ou la question la plus importante à vos yeux.
Ah, la plus importante. Attendez, moi j'aime beaucoup celle, parce que ça a été une vraie enquête, qui demande vraiment si les corbeaux sont vraiment peuvent remplacer les pigeons voyageurs, surtout dans Game of Thrones, parce que voilà pourquoi j'ai pas dit que c'était ma série culte, parce que je l'ai regardé en disant mais pourquoi ils utilisent des corbeaux. Alors j'ai demandé à une éthologue qui m'a dit ouais, les corbeaux ils sont assez intelligents pour faire ça, on pourrait les dresser, mais comme ils sont carnassiers, ils risquent de s'arrêter tout le temps pour aller manger, tandis que le pigeon il est plus focus, quoi. Il est un peu
objectif.
Voilà, ouais. Il veut rejoindre son couple, donc il rentre directement chez lui. Mais donc il se plante totalement dans cette série, donc j'ai complètement déconnecté, je préfère MacGyver.
Donc c'est à partir de petites questions comme ça que...
Oui, que je me gâche la vie, oui.
Mais pas celle des autres, je vous rassure.
J'ai aussi noche et je me dis, alors déjà il a pas fermé la porte du frigo, ça m'énerve. Il rentre chez lui, tout est allumé, c'est pas normal. Et des questions comme ça en me disant, mais il devrait faire une septicémie, là faut pas faire ça, est-ce qu'il faut vraiment soigner.
C'est ça que vous appelez le syndrome de la dissection ?
Vous souffrez du syndrome de la dissection, c'est quoi? Et surtout, est-ce que c'est dangereux pour nous?
J'avais rencontré un psychanalyste qui me fait, mais en fait, t'as le syndrome de la dissection, parce que j'avais bien aimé disséquer au collège. Et je crois que j'aime bien comprendre comment les trucs sont faits. Ouais, la machine qui distribue les billets, par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait une vitre pour voir comment ça marche. Mmh. Ça doit pas être trop compliqué. Mais j'aime bien comprendre comment sont faits les trucs, comment ça fonctionne, comment c'est bidouillé à l'intérieur. Voilà, c'est
moi, ça. Ma question, par exemple, c'est de savoir si la lumière du frigo reste allumée quand je ferme la porte.
Non.
Comment le savez-vous?
Bah parce qu'on la voit s'allumer, comme le four.
Mm-hmm. Ah non, moi quand je
parce qu'il y a le petit bouton, il y a l'espèce de petit bouton quand la porte s'appuie dessus.
Rien ne me prouve,
On peut faire une expérience si vous voulez.
Marion Montaigne, votre professeur moustache, votre professeur moustache est un mix entre la fille illégitime d'Alfred Einstein et de Stephen Hawking.
D'Albert, pardon.
Oui, Albert. C'est moi qui ai écrit la bio sur lui.
On part mal, non?
Oh non, bah c'est on a mis le niveau assez haut, ouais. Tant qu'à déconner, autant y aller à fond.
Mais alors, faisons un peu d'histoire en plus des sciences. Comment et quand il est né ce professeur moustache?
Ah, en fait, il est né plutôt en 2008, un été où j'avais plein de notes sur des articles scientifiques que je lisais, sur des recherches que j'avais fait comme ça. À partir de films où je me posais la question en me disant est-ce que c'est vraiment possible qu'un lézard de 43 mètres détruise une ville sans manger? Ça doit énormément manger, ça doit énormément boire. Et donc je l'ai rassemblé, j'en ai fait un blog avec un. Il fallait un petit professeur pour parler, donc c'est une sorte d'alter ego malsain, un peu bizarre.
Qu'est-ce qui vous dicte les sujets? Est-ce que ce sont vos interrogations seules ou l'actu aussi peut parfois provoquer
Alors il y a l'actu,
des développements.
Ouais, il y a l'actu, il y a les trucs que je lis, la pop culture par exemple. Mm-hmm. Et puis il y a les articles, il y a plein de sites qui référencient des articles, mais absolument scientifiques, vraiment bizarres. Il y a même des sites consacrés aux recherches les plus tordues, où ils font même des clubs de scientifiques très chevelus. Ils ont des concours où plus ils ont de barbe, plus ils sont contents. Et donc ils ont des recherches.
Vous y êtes inscrite?
Non, parce que je suis pas chercheuse, mais ouais.
Je n'ai pas barbu.
Non, mais on peut s'arranger.
Parce qu'on est là.
Bientôt, ménopause, bientôt. Vous savez pas du tout en fait. Et donc, il y a plein de sites qui référencient. Maintenant, les recherches sont mises sur Internet, donc vous y avez accès. Moi, j'adore aller chercher des trucs comme ça, mais il y a des trucs, mais on n'a pas idée de ce qu'ils font.
Par exemple, dans le tome 5, y a des chapitres dédiés au clitoris et au désir féminin. Est-ce que c'est par prévenance ou par militantisme?
Par prévenance? Ah non, mais oui, c'est un peu par militantisme, parce que en fait, il y a peu d'adolescents et même d'adultes qui savent que en fait, chez la femme, le clitoris est un organe assez grand. En fait, depuis seulement 98, ils ont eu l'idée de le mettre dans un IRM pour vraiment regarder comment c'est fait. Et en fait, ça a une forme de papillon et c'est lui qui domine, j'ai presque envie de dire, parce qu'il encadre tout. Il faudrait que je vous fasse un dessin. Enfin, je vous dirais. Enfin, vraiment, ça.
C'est grand, moins bête,
c'est grand et ça bouge. En plus, ça bouge tout seul. Enfin, pas tout seul.
Et voilà, comment effrayer des générations de gamines maintenant? Bravo Marion.
Il faut les stimuler. Bon, alors ce professeur moustache est un professeur à la pilosité hors norme, donc, qui répond scientifiquement aux questions que, comme le disait Charline, personne n'ose s'opposer. Par exemple, l'orgasme est-il un bon somnifère? Alors, utiliser l'humour, c'est un bon moyen d'apprendre en s'amusant, comme dit Jérôme Niel.
Salut, bande de salopes! Avec les tutos, on apprend en s'amusant!
Oui, mais alors, sans la vulgarité.
Ah, mais c'est pas, rire, c'est pas forcément se moquer, puis c'est pas... Si, un peu, des fois. Non, mais c'est une manière d'un peu raccourcir la distance, parce que, enfin, moi, quand j'étais au collège, j'avais l'impression que la science, c'était pour les génies, que c'était des vieux barbus qui savaient tout, et moi, je savais rien, et donc, j'avais pas le droit de savoir leur science, et en fait, c'est tout... Moi, je trouve que c'est faux, c'est frustrant de se dire, parce qu'on n'a pas le niveau, qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui se fait actuellement. En plus, dans notre vie de tous les jours, il y a plein de trucs scientifiques. Enfin, il y a même de la génétique avec la PMA, vous avez des reconnaissances faciales partout. Donc, moi, je trouve que l'humour permet de rendre plus proche. Et puis surtout, ça va, on peut en parler, on a le droit d'en parler. Puis même de la critiquer, puis de s'en moquer. Et puis, c'est pas sacré, c'est pas...
Et puis d'apprendre à comprendre, comme vous le faites.
Oui, puis ça...
Donner les clés.
Ça fait du bien quand vous avez compris quelque chose. Quand vous lisez un bouquin d'astrophysique, vous n'avez rien compris, puis tout d'un coup, vous comprenez un truc, vous faites « Ah, mon Dieu, vous êtes fiers, vous êtes contents pour la journée, enfin, au moins 10 minutes. » Puis ça vous fait oublier votre condition de misérable humain pendant 2-3 minutes.
Pour prendre un autre exemple concret, cette carte envoyée par Relou 4000, dont on sait qu'il s'agit du pseudo sur les réseaux d'un certain Antoine Dessé, quelle méthodologie est-ce que vous utilisez pour répondre à « Cher prof, quand je lis les journaux, un coup on me dit que les jeux vidéo rendent violents et un coup c'est l'inverse, mais comment ils font dans les labos d'abord pour vérifier ça ?»
Alors celle-là, j'en ai bavé.
C'est une vraie question d'actu en plus pour le coup.
Alors je me suis dit, tiens, est-ce que les jeux vidéo rendent violents ? La question hyper dure à relever. Et je me suis documentée. Alors j'ai cherché plein de recherches scientifiques qui essaient d'interroger ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est plutôt la manière dont ils le font. Par exemple, en psychologie, ils ont des tests. C'est un peu difficile de savoir si quelqu'un devient violent juste après avoir joué un jeu vidéo. Est-ce qu'il est juste de mauvais poil ou juste il aime pas le chercheur. Mais ils ont des trucs comme ça. Ils regardent si après, quand vous allez faire vos courses, vous achetez plus de produits d'hygiène. Et ça, c'est la théorie, comme quoi vous avez besoin de vous laver parce que vous culpabilisez, mais en vérité, vous êtes peut-être juste, vous avez sué parce que vous avez beaucoup. Peut-être qu'il faisait trop chaud. Enfin, il y a plein de biais qui sont vraiment marrants. Donc, non, mais il y a plein de recherches avec des IRM pour voir si on réagit différemment. Mais après, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi, je vais pas rentrer dans les détails. Non, mais c'est aussi sociétal, en fait. Qui joue, pourquoi.
Vous recevez maintenant des vraies demandes de gens qui vous posent des questions auxquelles ils vous demandent de répondre, soit dans les bouquins.
Professeur Moustache.
Ouais. J'ai des courriers et des fois c'est bizarre parce qu'il y en a qui pensent que je suis vraiment médecin, donc il y en a qui m'envoient des photos de leur mélanome en disant. Est-ce que je dois aller à l'hôpital ? Et là, je fais, écoutez, allez voir un médecin.
Allez-y, ça marche pas de temps. Marion Montaigne, la pop culture, c'est l'adaptation. Et ce pop professeur a été adapté en série animée sur Arte depuis 2016 avec la voix de François Morel. Alors, je prends une question au hasard. L'homosexualité est-elle contre nature ? Extrait.
Très tôt, les éthologues ont remarqué des comportements homosexuels dans la nature.
Que font donc ces deux singes mâles ?
Mais soit par ignorance, soit par pudeur, ils gardèrent ces observations pour eux.
Je crois que celui du dessus aide l'autre à recracher pour pas qu'il s'étouffe.
Ah, crache ta cacahuète ! Crache !
Ah, c'est donc ça, c'est une histoire d'aide pour aider à recracher des cacahuètes, c'est ça ?
Oui, bah, sans l'image, un peu dur, mais... oui, voilà, c'est tout à fait ça. Non, mais ça a été beaucoup observé dans la nature et pendant très longtemps, on n'osait pas le publier, tout simplement. Et on pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces connaissent des comportements homosexuels. C'est juste qu'il faudrait beaucoup, beaucoup d'heures pour l'observer et qu'on n'a pas assez, ils n'ont pas assez d'argent ou de moyens. C'est très répandu.
Tu mourras moins bête, c'est de la vulgarisation scientifique trash, parfois méchante, mais jamais bête. C'est ça.
Merci.
Le pitch ?
Voilà. Non, oui, c'est vraiment s'amuser, comme si c'était un copain chercheur qui vous racontait de manière très cool ce qu'il fait et vous faites des blagues en discutant avec lui. Donc c'est un peu ça, moi, c'est ce que je fais quand je vois un chercheur. Quand il aime son travail, on rigole, on parle de son travail, on essaye d'imaginer ce que sera, comment c'était avant, comment ça pourrait être dans le futur. Mais c'est très stimulant, en fait.
À quel public s'adresse Tu mourras moins bête ?
Alors, avec l'éditeur, on pensait qu'on était ado-adulte. Mmh. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de jeunes, probablement avec la série, qui regardent. Donc, en dédicace, j'ai des fois des 8-9 ans et je leur dis, mais...
Bon, voilà. Mais c'est pas fait pour toi, je vais te faire un dessin.
Vous leur dites quoi ?
Ben, je vais te dessiner un gros clitoris. Non, mais je suis étonnée. Puis en fait, ils sont non, mais je comprends tout. Ça dépend des parents.
Et puisqu'on parle de l'animé, je crois que la nouvelle saison arrive en même temps que le tome 5. Ouais, c'est ça, sur Arte.
Elle est en train d'être produite. Elle devrait en printemps 2020.
Marion Montaigne, votre cerveau bouillonne. Vous avez récemment googlisé des études sur la longueur des cils. Vous avez découvert que ces cils ne bloquaient pas la poussière. Et vous vous êtes demandé si ça pouvait changer en mettant beaucoup de mascara. Alors, moi j'ai une question simple.
C'est vrai, cette histoire.
À quoi ressemble votre historique Internet ?
Oh, je crois que je dois être fichée. Je sais, il y a des bazookas, il y a des maladies, il y a des trucs nucléaires. Je suis très mal barrée. Non, c'est sale. C'est très sale. En plus, moi j'aime bien mettre des images dans les bibliographies, donc c'est dégueulasse. Non, c'est vraiment, il y a de tout, hein, mais il y a à boire et à manger. Hein.
Et surtout, qu'est-ce que vous faites quand vous ne vous posez pas de questions ? Est-ce que ça vous arrive ?
Oui, bah je fais la cuisine, des trucs cons. Non, mais c'est un truc d'anxieux, je pense. Hein. Mais c'est infernal au cinéma. J'essaie de me taire, mais où je regarde aussi des trucs. Non, je lis. Non, le pire, c'est que je me pose toujours des questions parce que je lis aussi des trucs pour la prochaine fois. Mais C'est fatigant.
Ça va être un cauchemar d'aller voir un film de science-fiction avec vous.
Non, je me... Oui, oui. Oui, c'est vraiment chiant.
Le tome 5 de Tu mourras moins bête, c'est édité chez Delcourt. Le sous-titre, c'est Tu mourras moins bête. Quand il y en a plus, il y en a encore.
Oui.
Ah, oui, c'est important.
France Inter. Le Maxi Best Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Et Charline Rose. Nous étions au début de cette émission avec Isia Higelin, qui nous a même proposé un titre en live. Alors, impossible de terminer ce Maxi Best Pop sans jouer le dernier titre de Dominique A, qui s'appelle Esselé, avec Isia en featuring.
J'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages. J'ai peur de devenir fou parfois. Esselé.
La rencontre entre Isia et Dominique A pour terminer ce pop-up-up et cet extrait de La Citadelle. Merci à Isia et Marion Montaigne pour ce maxi best pop du jour. Merci aussi à toute l'équipe de Pop Pop Pop. Demain dans l'émission, on se retrouve pour un nouveau maxi best pop avec Claudie Faucon, le directeur et sales marketing manager des abattoirs d'Anderlecht et photographe de charme semi-professionnel alias François Damiens. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous ou plutôt comme disent ceux qui font des tutos accent belge sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast une fois. Et suivez-nous sur les internets, hein, comme disent les milléniaux, le 3615, pop-up-up sur Instagram et Twitter.